Accès libre.
Bonjour et bienvenue à Accès libre, cette édition du 28 septembre 2020. C'est Christiane Capagnan qui est avec vous à l'animation aujourd'hui. Jean-Sébastien à la liberté est avec moi à la mise en onde. Jean-Sébastien, est-ce que tu écoutes District 31?
Absolument pas. Je fais partie probablement des rares Québécois qui ne suivent pas cette quotidienne.
Ah, t'as pas vu le scandale dont on ne parlera pas aujourd'hui, c'est-à-dire le sergent-détective Bissonnette qui s'est mis dans une place de stationnement réservée pour les personnes handicapées la semaine passée?
Comment a-t-il osé?
On parle d'un comédien qui est porte-parole d'une grosse association dans le milieu du handicap au Québec. Tout. Alors, va falloir lui taper sur les doigts. Mais ce dont on parlera aujourd'hui, c'est plutôt de design universel, de deux explorateurs non-voyants du 19e siècle et d'une élue montréalaise qui est aussi une proche aidante. Mais tout d'abord, on va aborder la question du syndrome d'alcoolisme fœtal. C'est un sujet que je voulais faire depuis longtemps, en fait depuis mon écoute du balado « Bienvenue à Rivière-des-Prairies » du réalisateur Gabriel Allard, c'est un balado de Radio-Canada, dans lequel on suit des jeunes qui sont dans un centre de jeunesse à sécurité le maximale à Montréal, et un des jeunes, ses problèmes viennent en partie du fait qu'il est pris et aux prises avec les séquelles de ce syndrome. Alors, pour nous aider à démystifier justement ce qu'est le syndrome d'alcoolisme fœtal, on reçoit le docteur Jean-François Chicoine, qui est pédiatre au CHU Sainte-Justine. Bonjour, docteur Chicoine.
Bonjour à vous.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
J'imagine qu'on est occupé?
Oui, c'est une époque désagréable, mais très intéressante.
C'est un très bon résumé. Donc oui, on a fait appel à vous pour en apprendre davantage. D'abord, pouvez-vous nous expliquer en gros en quoi ça consiste, là, le syndrome d'alcoolisme fœtal?
Oh, ça consiste à plusieurs choses. En fait, c'est un spectre. Vos auditeurs ont peut-être déjà entendu parler de l'autisme.
Oui.
Il y a beaucoup, beaucoup de niveaux. Avec l'alcoolisme fœtal, c'est la même chose. Ça a commencé à être décrit à la fin des années 40-50 en France. Et puis ensuite, les publications se sont enchaînées. Ça n'a jamais été déchaîné. C'est toujours une maladie qui a été mise un petit peu de côté. Probablement parce que c'est sûr que ça précipitait beaucoup de parents, de mamans dans la honte à partir du moment où on pouvait faire un lien entre l'anomalie congénitale constatée chez l'enfant et puis le fait qu'ils aient pris de l'alcool pendant la grossesse. Alors, l'alcoolisme fœtal, quand on parle du syndrome d'alcoolisme fœtal, le cas le plus typique, c'est un enfant qui naît en général petit, avec aussi une petite tête, une petite taille, qui a quelques petites anomalies physiques associées. Parfois, ça peut être même une fente labiopalatine, une maladie au cœur, quelque chose de particulier aux os. Au rein aussi, mais c'est aussi un enfant qui a dans son visage des stigmates là, qu'on peut reconnaître. En général, les principaux, je vous dirais, c'est le vermillon, donc la lèvre supérieure qui est très, très effilée, très mince. En fait, on pourrait pas mettre de rouge aux lèvres dessus. Ensuite, un effacement de la ligne qui va du nez à la lèvre supérieure, qu'on appelle le philtrum. Alors, c'est comme si la lèvre supérieure s'avançait en avant. Ça donne l'impression d'un petit bec. Le menton est en général petit aussi. Et les yeux sont petits, les oreilles sont basses implantées. C'est des enfants qui se reconnaissent assez facilement quand on a l'habitude d'en voir. Et puis, à la limite, on pourrait ne pas reconnaître, en fait, cette anomalie-là. Surtout, ça donne des retards développementaux importants. Donc, on pense que c'est des enfants qui ont vraiment un déficit intellectuel. Mais, en fait, il y a juste le quart qui va avoir un bon déficit intellectuel. Les autres vont avoir une intelligence basse, lente, donc avec tout ce qui vient avec. Donc, beaucoup, beaucoup de problèmes spatiaux au niveau moteur. Des retards orthophoniques, etc. C'est des enfants qui sont assez, assez mous, mollassons, sympathiques, qui se font faire mal 5, 6, 7 ans par les autres enfants. Ils sont pas agressifs comme d'autres enfants qui auraient été, qui auraient une autre anomalie ou qui viendraient d'une forme de maltraitance. C'est alors assez particulier de voir à quel point on remarque pas tant que ça ces éléments-là chez eux. Sinon, des dérégulations fréquentes, ces enfants qui ont de la difficulté à s'adapter à des situations plus que d'autres enfants. Mais surtout vers 8, 9, 10 ans, là, la courbe commence à ne pas être favorable pour eux, ces enfants qui ne rentrent pas dans l'abstraction, dans la métaphore, dans les hypothèses et tout. Donc, ils ont une intelligence qui demeure très, très concrète, très proche de ce qu'ils voient. S'ils ne le voient pas, ils ont de la difficulté à l'imaginer, donc ils deviennent très dépendants à 10, 12, 13, 14, 15 ans de leurs tuteurs parentaux. Et l'évolution est malheureusement difficile parce qu'ils répondent peu et à la médication. Parfois, ils ont un TDAH, parfois, ils ont de l'autisme aussi. Mais surtout, ils répondent mal à l'excellente psychoéducation. Ils apprennent pas des choses. Les leçons de choses ne leur rentrent pas dans la tête, ce qui fait que bon, ils se mettent toujours dans des situations difficiles au niveau des comportements sexuels, au niveau des rapports avec l'autre. Et puis, avec les années, ben, ils peuvent être beaucoup plus se retrouver sur des trajectoires de délinquance ou en prison et tout. C'est une maladie importante qui atteint facilement 3-4 000 nouveaux bébés par année au Québec. Donc, proportionnellement, c'est vraiment deux fois plus fréquent que l'autisme, dont on entend beaucoup parler. Et pourtant, ben, on n'en entend pas si parler que ça.
Peut-être, comme vous disiez plus tôt, parce qu'il y a un certain stigma associé à ça?
Oui, un stigma associé à ça. Il y a peu de solutions quand l'enfant demeure encore dans sa famille biologique, parce qu'il y a souvent des éléments de négligence autour qui viennent se rajouter. Puis il y a aussi d'autres éléments qui viennent se rajouter au diagnostic de négligence ou de maltraitance ou de traumatisme, ce qui fait que on accumule. On finit par se retrouver avec des enfants qui ont un traumatisme complexe, en fait, et qui est pas facile à prendre en charge. Et c'est souvent, c'est vraiment une des causes les plus fréquentes de placement en famille d'accueil et je dirais de travail aussi au quotidien pour les familles d'accueil. Parce qu'il est bien prouvé que si on intervient tôt, en orthophonie, en ergothérapie, en physiothérapie, en psychoéducation, on diminue les problématiques secondaires sans malheureusement les enrayer. C'est une des principales causes de maladies congénitales des enfants dans le monde. C'est une des principales causes d'abandon. C'est malheureusement déclenché pas nécessairement de l'alcoolisme chez une maman, mais parfois une, deux, trois petites beuveries ou parties de trop dans le premier trimestre peuvent donner l'alcoolisme fœtal. C'est très, très difficile pour les experts d'essayer de savoir combien d'alcool va arriver à donner le syndrome alcoolo-fœtal, comment l'alcool est métabolisé chez chacune des femmes. Donc, on préfère dire de ne pas prendre d'alcool pendant la grossesse. Évidemment, un petit verre de vin dans les derniers trois mois, ça n'a pas le même effet qu'une soirée avec trois, quatre bières ou deux, ou une bouteille de vin dans le premier trimestre de grossesse. C'est vraiment ce qu'on appelle en anglais le binge drinking. Donc, les gros parties auxquels on n'a plus droit là, avec la COVID, là, qui amène cela. Et comme l'alcool a pénétré la jeunesse, dans les 10-20 dernières années. Malheureusement, ben, il y a des jeunes filles qui sont enceintes et qui ne s'aperçoivent pas et qui en plus, ne consommeraient pas si elles savaient qu'elles étaient enceintes à ce moment-là. Et c'est là un petit peu qu'on a perdu encore sur ce syndrome-là qui est pas facile à repérer pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Et puis malheureusement, ben, il n'y a pas de services pour ça qui sont spécifiquement donnés. Par exemple, si moi, comme pédiatre, avec mon infirmière, ma travailleuse sociale, je veux avoir des services pour l'enfant, ben, il va falloir que je lui diagnostique tout ce qui vient avec son syndrome alcoolo-fœtal, que ce soit le TDAH, le TSA, le trouble adaptatif, pour avoir des services.
Parce que si c'est seulement le syndrome d'alcoolisme fœtal,
on n'aura rien. Non, vous n'aurez rien.
Okay, parce
pour
que c'est...
avoir même les subventions pour parents d'enfants handicapés, etc., il faut que je décrive en fait toute l'accumulation de problématiques développementales ou psychiatriques ou des apprentissages pour avoir des services. Il n'y a pas personne qui va lever un drapeau rouge si j'écris syndrome alcoolo-fœtal. Alors ça, c'est la forme la plus fréquente. Et il y a aussi d'autres enfants qui n'ont pas de stigmate physique, mais qui ont toute l'imprégnation neurologique. Leur cerveau est vraiment comme un fromage. Un fromage qui fonctionne bien, mais il y a des petits trous un peu partout. Et ça, c'est ce qu'on appelle les effets de l'alcool sur le fœtus. Et c'est souvent des enfants qui sont plus atteints neurologiquement. Ils ont des troubles d'attachement. Ils sont souvent un petit peu plus agressifs que les autres. Donc, moins ça paraît, plus c'est vicieux parfois. J'ai souvent vu cela, par exemple, chez des jumeaux qui m'avaient été référés. Donc, celui qui était le plus atteint fonctionnait dans sa déficience et était relativement facile à cadrer, tandis que celui qui avait moins de stigmates, qui avait une grandeur normale, qui n'avait pas les traits, avait vraiment des troubles d'attachement sévères, des problèmes d'empathie, des problèmes d'immoralité. C'est l'immoralité ou l'absence de jugement qui, avec les années, est le plus décrié par des parents qui réussissaient quand même à trouver le meilleur de ces enfants-là en petite enfance ou jusqu'à l'âge de 10-12 ans. C'est des enfants qui, malgré leur intelligence, n'ont tellement pas d'abstraction de jugement que ça devient difficile de les mettre dans des groupes de leur âge, que ce soit à l'école ou même pour jouer.
Et j'imagine qu'en l'absence de stigmate physique, il y a peut-être des diagnostics qui sont retardés et donc des interventions qui sont retardées?
Oh, je vous dirais que facilement, la moitié des syndromes alcoolo-fœtal au Québec ne sont pas diagnostiqués. Facilement.
Est-ce que c'est par manque de connaissances de la part des médecins, par exemple, s'ils ne sont pas nés dans des hôpitaux spécialisés?
On ne va pas montrer ça non plus comme pédiatre. C'est quelque chose qu'on apprend un peu sur le tas. Et il faut en avoir vu beaucoup pour bien comprendre. La meilleure pour faire le diagnostic au Québec, c'est probablement mon infirmière qui est habituée d'en voir et qui en a reçu beaucoup. Mais nous, c'est sûr qu'on est une clinique spécialisée avec les enfants abandonnés, des familles d'accueil ou qui venaient de l'adoption internationale, notamment de Corée ou de Russie, surtout en Europe de l'Est. La problématique est extrêmement importante. Donc, aussi ceux qui travaillent auprès des Premières Nations ont souvent vu plus souvent cela, mais c'est un diagnostic qui donne le change pour beaucoup d'éléments. Puis au fond, qui est un peu décourageant, non seulement pour des parents qui n'auraient pas vu venir la chose, ou pour des familles d'accueil ou des parents adoptants, mais pour les soignants, parce que faut aller vraiment à la louche avec chacun des services, puisqu'il n'y a pas de prise en charge globale. Il y a eu quelques centres qui sont occupés de ça, mais c'est des enfants qui passent vraiment sous le radar. Il faut dire aussi que c'est souvent des enfants qui viennent de milieux extrêmement vulnérables. Donc, non seulement ils ont été arrosés d'alcool, mais ils ont eu droit à de la cigarette, à de la drogue, à une malnutrition, éventuellement à du bruit ou à du stress du côté de la maman enceinte. Et puis ensuite, parfois, des épisodes de négligence, de rupture dans des familles dysfonctionnelles. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres éléments de stress et d'atteinte développementale chez les enfants qui font écran à ce diagnostic-là. Mais quand on a l'habitude, on comprend qu'on a affaire à cela. Moi, je le comprends beaucoup parce qu'ils répondent moins à certaines médications, comme je vous disais tantôt, mais surtout d'excellents psychoéducateurs n'arrivent pas à leur faire retenir des meilleures façons de se comporter ou des stratégies pour être bien avec eux-mêmes. Et c'est vraiment ces éléments-là qui amène à raffiner le diagnostic. Les évaluations neuropsychologiques, surtout à partir de 9, 10, 11, 12 ans, sont capables non pas de faire le diagnostic, mais de supporter beaucoup, beaucoup le diagnostic maintenant, en ce sens qu'ils sont capables de voir justement ces fonctions de mémoire, d'intelligence spatiale ou d'intelligence en général, ou d'abstraction en friche chez ces enfants-là. Mais une évaluation neuropsychologique, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, beaucoup de familles peuvent pas se le permettre. Donc, il faut pouvoir rentrer ou dans une unité de santé mentale ou dans un programme quelconque pour pouvoir avoir droit à cette évaluation-là, ce qui précise un peu le diagnostic. Moi, je me bats beaucoup avec les services sociaux et tout pour avoir droit à ces évaluations-là. Parce que quand vous êtes dans le cirage depuis des années comme intervenant, puis vous dites, « Ah, mon Dieu, il y a peut-être de l'alcool là-dedans, mais je connais même pas les conditions de grossesse de la mère biologique. » Ben vous demandez, vous cherchez cette évaluation-là pour un peu supporter votre diagnostic clinique et le comportement clinique aussi observé par le professeur, par le psychoéducateur. Moi, ça m'est très éclairant aussi pour voir vers où l'enfant se projette, parce que ça veut dire donc si j'en suis là à 12-13 ans, puis s'il faut encore le surveiller, s'il y a encore besoin d'une permanence adulte, ben pour prendre l'autobus, pour pas agresser quelqu'un dans la cour d'école, mais ben ça me dit que ben entre 18 et 21 ans, ces enfants-là, il va falloir que j'aille chercher aussi beaucoup beaucoup d'accompagnement pour eux. Et malheureusement, à 21 ans, ben je pourrais plus faire grand-chose.
Ça y est, plus de recours.
Pour plusieurs d'entre eux, mais clairement, dans les gens de la rue ou dans les prisons ou chez certains solitaires qui se laissent pas aider facilement, etc., il y a des jeunes adultes ou des adultes ou même des personnes plus âgées qui sont atteintes du syndrome alcoolo-fœtal et qui ont été jamais diagnostiquées dans leur vie, non?
Alors, tout ça démontre que ça gagne à être davantage connu et qu'il y ait plus de sensibilisation. Et c'est justement pourquoi, Dr Jean-François Chicoine, pédiatre au CHU Sainte-Justine, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour prendre la peine de décortiquer ça pour nous et de mieux nous le faire connaître.
Ça m'a fait plaisir.
Merci beaucoup.
Son pain. Pain brun, pain blanc, pain tranché, pain croûté, pain coloré, pumpernickel, pain complet, pain total. Faut gagner son pain. Pain viande, pain noir, pain âne, pain baguette, pain belge, pain pita, pain sucre, pain d'épices, pain au chocolat, pain au raisin. Another day, another dollar.
Tout à fait alimentaire, mon cher Weston.
Un autre jour, un autre douleur, faut gagner son pain.
C'est pas mon rire que vous venez d'entendre, il est dans la chanson, le rire que vous venez d'entendre. C'était Urbain Desbois avec une chanson, la chanson Le Pain, qui fait Bon, qui joue un peu sur le fait que le mot pain en français est le même mot que pour douleur en anglais. C'est de l'album « Ma maison travaille plus que moi ». Parlant de maison, hein, on fait un petit lien ici. On va justement parler de design universel en domicile avec Anna Kwan, qui est architecte à la Société Logique. Bonjour Anna, ça va bien?
Oui, bonjour. Christiane.
Bonjour. Donc, on se rappelle, Société Logique, qui est... pouvez-vous nous parler un petit peu de l'organisme?
C'était une firme de consultation expert en design universel. Et puis, on a une mission de promouvoir le design universel dans la création d'un environnement universellement accessible. Donc, on est architecte et conseillère en aménagement urbain. On a plusieurs projets dans la municipalité et puis on accompagne beaucoup de professionnels, concepteurs, conceptrices qui font des projets d'architecture, de rénovation ou de nouvelles constructions. Donc voilà.
Et la semaine dernière, c'était le lancement donc d'Expérience 303, qui est un appartement modèle qui appartient à Société Logique.
C'est ça, parce que Société Logique, c'est le propriétaire apparenté de 5 immeubles d'habitation à Montréal, dont l'immeuble Saint-Joseph. Donc, logement 303 se trouve dans cet immeuble Saint-Joseph qui est situé dans le quartier Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc, le logement 303 a été passé au four en 2018. Donc, on voulait saisir cette occasion pour réaliser un logement selon les principes du design universel. Donc, c'est pour démontrer que un logement conçu comme selon le design universel est très, très beau et puis c'est très concurrentiel dans le marché immobilier. Ouais.
Quand on parle de design universel, qu'est-ce qu'on entend par ça, si on compare ça à juste suivre des normes d'accessibilité?
Donc, le design universel, c'est sûr qu'en fait, nous, on est plus familier avec la notion accessibilité conforme selon le code de construction. Donc, dans l'accessibilité, on tient compte seulement les besoins des personnes qui se déplacent en fauteuil roulant manuel. Mais le design universel, ça inclut en fait tous les besoins de toute la population, incluant les personnes âgées, familles, personnes ayant des limitations fonctionnelles, évidemment, mais aussi les personnes inexpérimentées comme enfants, comme nouveaux arrivants, qui comprennent moins la culture, etc. Donc, le design universel, ça s'adresse vraiment à tout le monde.
Donc, l'idée, c'est de faire des appartements qui, peu importe qui va aller vivre dedans, il va y avoir moyen de le rendre, de l'adapter pour cette personne-là.
Bien, c'est sûr qu'en fait, il y a une notion d'adaptabilité qui est inclue dans le concept de design universel. Mais quand on entre dans ce logement-là, en fait, c'est un logement vraiment comme les autres. Il n'y a pas vraiment grande différence par rapport aux logements qu'on voit souvent dans la publicité ou bien des logements, je dirais, standards. C'est juste, en fait, il y a quelques mots comme... quelques caractéristiques d'accessibilité qui sont bien intégrées dans l'aménagement. Donc, ça ne se voit pas vraiment, mais dans le cas où on modifierait le logement selon les besoins qui se manifestent avec le temps, disons, en fait, une personne qui est en perte d'autonomie, donc là, il a besoin, il l'utilise comme le fauteuil roulant. Donc là, en fait, le comptoir de la cuisine, le comptoir des vieilles, il n'est pas dégagé, mais comme le module en dessous de l'évier, il est déjà conçu comme que ce soit en fait démontable. Donc là, on peut juste enlever ce module et puis on peut accéder au comptoir d'évier plus facilement, même si on est en fauteuil roulant. Mais quand on voit le logement en tant tel, c'est une cuisine conventionnelle avec l'armoire comme en dessous de l'évier, mais c'est juste parce que les modifications pressenties ont été déjà intégrées dans l'aménagement, donc c'est très, très facile à modifier.
Et est-ce qu'il y a déjà des choses dans l'appartement que peut-être les gens monsieur, madame, tout le monde ne remarquerait pas, mais la personne qui a besoin de choses accessibles, si elle va visiter l'espace 360, l'espace 303, elle va remarquer tout de suite que cet appartement-là est différent?
Ben, ça veut dire qu'en fait, il y a plus d'espace au sol, à l'entrée. C'est beaucoup plus pratique pour tout le monde, hein, comme avec un couple qui a un enfant en poussette. Donc là, en fait, entrer avec la poussette, c'est sûr que l'espace assez grand à l'entrée, c'est beaucoup plus pratique aussi pour ranger des bottes et puis des manteaux, tout ça. Donc là, c'est pratique. Et puis dans le corridor aussi, c'est un peu large parce qu'on voulait avoir plus d'espace libre devant la garde-robe, devant la porte de la salle de bain, tout ça. Et puis quand on tourne, en fait, quand on tourne dans le corridor pour accéder dans le salon aussi, l'espace est assez grand. Donc là, il n'y aurait aucun problème. Mais si on n'est pas en fauteuil roulant, on pourrait aménager le corridor beaucoup plus agréable parce qu'il y a de l'espace. Donc, on pourrait disposer des beaux meubles. Puis, c'est ça. Donc, il n'y a aucun problème.
Et quand on parle d'adaptabilité, on veut aussi promouvoir le fait d'aménager un endroit où on pourra rester peut-être plus longtemps?
Ben, c'est ça. En fait, ce qu'on vise dans le design universel en habitation. Donc, là, en fait, quand on voit dans le site web, là, on a beaucoup d'images de logements. Et puis, on a aussi, on voit aussi la douche aménagée dans la salle de bain. C'est sûr que les gens posent des questions. « Ah, moi, j'aimerais avoir une baignoire. » Mais nous, on voulait montrer qu'en fait, là, la douche est très bien, peut être très bien comme aménagé en enlevant simplement la baignoire. C'est parce que en fait, même si on a une dalle de béton, c'est pas difficile d'installer une douche comme préfabriquée. Donc c'est pour ça qu'on a installé la douche. Donc c'est sûr qu'en fait, au début, là, on pourrait avoir une baignoire dans le logement conventionnel, mais on pourrait enlever la baignoire et puis on pourrait installer la douche sans seuil. Et aussi dans la salle de bain, on a intégré le fond de couloir. C'est en fait c'est un contreplaqué, donc il est à l'intérieur du mur, donc ça se voit pas, mais quand on a besoin d'installer des barres d'appui, on n'a qu'à comme visser les barres d'appui à n'importe où parce qu'on a un fond rigide déjà prévu à l'intérieur du mur, donc on n'a pas à arracher la céramique.
L'avantage, c'est que si la personne considère qu'elle commence à vieillir, mais qu'elle n'est pas encore assez vieille pour avoir toutes ces barres-là, qui peut-être tout de suite lui montrerait qu'un jour, elle ne sera pas autonome, mais ça pourra être adapté à moindre coût. Alors, on invite, ça va être tout pour aujourd'hui, mais on va se reparler de séjour à Anaquan de design universel. En attendant, on invite à aller voir les gens. On invite les gens à aller voir Expérience 303 en passant par le site de Société Logique. Merci beaucoup, voilà. Anna.
Ben, merci à toi.
Merci. On se retrouve dans un instant. On va parler avec notre chroniqueur François Beauregard, explorateur non-voyant du 19e siècle.
Accès libre.
Rebonjour tout le monde, Christiane Campagna avec vous pour cette édition du 28 septembre de l'émission Accès libre. Et avec nous maintenant, François Beauregard. Bonjour François.
Bonjour Christiane, ça va bien?
Oui, ça va très bien. Et toi, ça va?
Oui, ça va comme ça va dans les temps qui courent.
Oui, bien sûr.
On fait comme si de rien n'était. Voilà.
On se console avec ce qu'on peut, hein, comme le beau temps qu'il y a fait en fin de semaine.
Tout à fait, il y a plein de choses qu'on peut faire.
Et là, aujourd'hui, je trouve ça vraiment intriguant, les personnes dont tu as choisi de nous parler. On parle d'explorateurs au 19e siècle.
Oui, exact. James Ullman et Jacques Arago sont deux Européens, évidemment un Britannique, en fait, plus exactement un Écossais, et un autre Français, Arago. Les deux viennent du 19e siècle. Les deux ont été des explorateurs dans le temps où, évidemment, les puissances coloniales européennes étaient curieuses de dresser la cartographie du monde, mais ce qui est un peu particulier dans le cas de James Ullman, c'est qu'il a d'abord fait presque tous ses voyages complètement aveugle. Et dans le cas de Jacques Arago, c'est qu'il a raconté ses voyages après qu'il ait perdu la vue. Mais dans un cas comme dans l'autre, on parle de gens qui ont fait le tour du monde. James Allman est né voyant. Et il est officier de marine et à 24 ans, il contracte une fièvre tropicale. On sait qu'il y a des maladies tropicales qui provoquent la cécité, comme la fièvre des rivières, par exemple. Et quoi qu'il en soit, il devient complètement aveugle. Il est déclaré invalide. On lui accorde une pension. Il y a même un poste au château de Windsor. Mais là, il peut pas souffrir de faire ça. Il a 26 ans maintenant. Et là, il dit non, c'est pas vrai, ma vie ne s'arrête pas ici. Il obtient la permission d'aller étudier la médecine et la littérature à Édimbourg. Et par la suite, il va commencer à voyager. De 1819 à 1821, il entreprend de faire le tour de l'Europe de l'Ouest. Par la suite, il va traverser la Russie pour aller jusqu'à la frontière mongole. Et ça, il fait ça complètement aveugle, encore une fois.
Est-ce qu'il dirigeait ces expéditions-là ou il se joignait à des expéditions?
Ben, il se joignait à d'autres. Évidemment, okay. Parfois, il avait besoin d'avoir des compagnons pour éviter de manquer le quai et tomber sur les rails de chemin de fer. Mais essentiellement, c'était à son initiative que ces voyages-là avaient lieu. C'était son idée, c'était lui qui voulait partir. Il ne se collait pas à d'autres. Et il a entrepris de faire le tour du monde de 1827 à 1832. Il va faire... il a été le plus grand voyageur, aveugle ou voyant, avant la venue des moyens de transport modernes. Alors que ce soit en voilier, en bateau à vapeur... Il a trouvé moyen de faire les 5 continents. Il est revenu et il a publié en 1836 un énorme 4 volumes de ses périples avec des observations sur les peuples qu'il avait rencontrés et surtout des observations à titre de botaniste. Alors, il était capable de reconnaître des plantes là, à l'odeur ou toucher, ainsi de suite, et en faire des descriptions. Tant et si bien qu'il est devenu membre, il était admis membre à la Société royale, qui est la société scientifique britannique qui existe encore aujourd'hui, là, mais qui était la sommité au 19e siècle. Et il est considéré comme un des plus grands explorateurs de l'histoire, point. Après ça, on peut ajouter, il a tout fait ça en étant aveugle, ce qui là est vraiment remarquable, surtout à une époque où il n'y avait pas quelqu'un pour vous prendre le bras à l'aéroport, là. Hein, on ne parle pas de ça du tout.
On parle même pas non plus d'une époque où ça allait de soi là, qu'une personne continue à être active.
Oui, exact. C'était plutôt un moment où si on était en une situation d'handicap, on restait à la maison, là, puis on essayait de pas briser les potiches. En fait, tant et si bien hein, qu'après son décès en 1857, il y a des gens qui ont commencé à mettre en doute la véracité de ces...
ses observations.
De ses récits, ses observations, mais ça n'a jamais été prouvé autrement et il a effectivement bel et bien fait le tour du monde et trouvé le temps de faire des observations, de prendre des notes et de tout réécrire ça et de faire un livre. Le français Jacques-Étienne Victor Arago, c'est un peu la même histoire, mais un peu décalé. Arago était voyant et il a fait le tour du monde pendant qu'il était voyant. À titre de dessinateur, parce que à ce moment-là, la France avait affrété un navire en 1817 qui s'appelait l'Uranie, avec la mission scientifique de parcourir le monde et de dresser un inventaire de ce qui existait sur la planète. Alors, lui était attaché à cette expédition scientifique. Il a fait le tour du monde à bord de l'Uranie. Et à titre de dessinateur, alors, il était très, très doué pour ça. Et c'est à son retour, même chose, une maladie tropicale, c'est à son retour qu'il a perdu la vue. Mais c'est à ce moment-là qu'il a aussi commencé à écrire et il a continué de voyager. Alors, après avoir perdu la vue, il a continué de voyager partout en Europe, tout le bassin méditerranéen, et est devenu un auteur dramatique prolifique. A écrit plus d'une vingtaine de pièces, plus d'une vingtaine de livres en plus, où il faisait le récit de ses voyages.
Donc, il a remplacé le dessin par l'écriture.
par l'écriture et utilisant son excellente mémoire, était capable de décrire les lieux, les impressions qu'il avait, mais il a continué de voyager, même après avoir perdu la vue. Il a continué de parcourir l'Europe et d'écrire des livres sur ses périples dans le bassin méditerranéen, en Italie, ainsi de suite. Et il a écrit plein de pièces de vaudeville là, ou de théâtre bourgeois du 19e siècle. Et tout ça, ben, en étant aveugle. Voilà. Alors,
donc, un homme d'une grande polyvalence, nombreux talents.
Voilà, polyvalent, lettré. Les deux ont ça en commun. C'est pas la perte de la vue qui les a arrêtés de faire ce qu'ils voulaient faire dans la vie. Là.
Autrement dit,
comme l'autre, ont sauté.
Quand on est quelqu'un qui a la bougeotte,
oui.
C'est pas un handicap visuel qui va nous arrêter.
Non, exactement. Et eux l'ont fait dans des conditions bien plus difficiles que celles que nous rencontrons nous-mêmes aujourd'hui. Là.
Oui, pour tout un chacun, ce genre de voyage-là était déjà risqué à l'époque.
Oui, tout à fait. Là. C'est pas tout le monde qui voulait se taper 3-4 mois de voyage pour aller en Orient. Là. Et encore moins si on n'y voyait pas. Alors, c'était à la fois des barrières logistiques et des barrières de société là, qu'ils ont franchies à cette époque-là. Alors, voilà. Deux explorateurs qui sont restés dans l'histoire, malgré, et c'est presque dans les deux cas, rendu une note en bas de page de dire, ils étaient aussi aveugles.
Oui, tout à fait.
Voilà.
C'est ce qu'on souhaite, en fait, que ce soit comme ça la plupart du temps.
Exactement.
Merci beaucoup, François, d'avoir déniché pour nous ces personnages dont on n'entend pas assez souvent parler. Et qui nous montrent que l'esprit d'aventure chez une personne ayant un handicap visuel, ça ne date pas d'hier. On se reparle bientôt, exact. François.
Merci,
merci infiniment.
Bye-bye.
Les briques viennent, les briques vont, de par les tavernes, les bistrots, les bars, salons. On les achète nulle part, on les oublie partout. On les trouve par hasard, pour les perdre, on ne sait où. Briquet de luxe, briquet à Amadou. Zippo plaqué or, pique à quelques sous. On les emprunte comme ça, on les chippe sans savoir. On les prête sans faire de cas, pour ne plus les revoir. Ils nous allument les soirs de premier rendez-vous. Quand brille la lune et que la belle fait les yeux doux. Ils sont de mèche et pour peu que l'amour s'éveille. Quand le péché tend la perche, ils sont rayons de soleil. On les emprunte comme ça, on les chippe sans savoir. Puis on les prête sans faire de cas pour ne plus les revoir.
Alors, on parle maintenant à Mme Liliane Tremblay, qui est conseillère d'arrondissement du district Saint-Léonard-Est à Saint-Léonard. Elle est membre du Parti Ensemble Montréal. Mais on ne lui parle pas aujourd'hui pour parler de pistes cyclables ou de construction dans Montréal, mais plutôt de parler de sa double vie, si on veut, d'élu et de proche aidante. Bonjour, Mme Tremblay.
Bonjour, Mme Campagna. Bonjour, tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, on ne parlera pas politique, mais on va parler de proche aidants.
Oui, tout à fait. Et c'est un sujet brûlant d'actualité avec la pandémie, puisque les proches aidants ont été très, très touchés. C'est déjà épuisant en temps normal. Ça a été vraiment une période particulière pour être proche aidant. Mais tout d'abord, juste pour se mettre en contexte, vous êtes en politique municipale depuis combien de temps?
Après ma deuxième maîtrise à l'École nationale de l'administration publique, j'ai été approchée par Mme Bissonnet, qui était la conseillère ici dans le district de Saint-Léonard, en 2009. Donc, je n'ai jamais baigné au milieu politique ni familial. Donc, pour moi, c'est un nouveau défi. Et quand elle m'a parlé d'aller en politique en 2009, bien, avec mon conjoint et Carmen, Carmen étant ma petite sœur, oui. On en a discuté pour voir la possibilité d'y aller et j'y suis allée.
Parlez-nous un petit peu de votre sœur Carmen, justement.
Carmen est déficiente intellectuelle. Elle est âgée de 54 ans. Sa plus importante déficience est son incapacité à s'exprimer. Elle parle en bout de phrase et très peu. Mais si nous lui parlons, là, en lui offrant la possibilité de nous répondre par oui ou non, elle comprend tout ce que nous disons. Carmen, si je vais à exprimer ce que je ressens, c'est un enfant dans un corps d'adulte avec des besoins particuliers. Elle n'a pas le sens de l'orientation. La parole, pour elle, c'est difficile. Donc, si Carmen se perdrait, bien, elle serait à merci de tout individu qui voudrait profiter d'elle et elle ne pourrait même pas se retrouver là, sur l'île de Montréal.
Elle habite avec vous depuis combien de temps?
Ça va faire maintenant au-delà de 16 ans. Suite au décès de mon père, mes parents étant originaires, et moi aussi, là, par le fait même, du Saguenay, mon père étant décédé en l'an 2000, suite à un long processus légal pour obtenir la curatelle privée au bien et à la personne de Carmen, bien, je suis devenue son tuteur légal.
Vous êtes une élue. Être élue, c'est pas nécessairement avoir un horaire de 9 à 5. J'imagine que ça doit quand même compliquer un petit peu la vie comme proche aidant.
Oui. Je dois tout prévoir. Ma plus grande là, difficulté, c'est les rencontres de dernière minute, les imprévus. Carmen utilise le transport adapté, qui est un
qui
service...
Qui n'est pas flexible.
Écoutez, je vais vous dire, il y a beaucoup de critiques concernant le transport adapté, là, mais c'est un service qui, pour moi, me facilite la vie. Là. Ils viennent chercher Carmen le matin, et le retour est prévu pour 15 heures. C'est certain qu'il doit y avoir quelqu'un à l'adresse demandée. Sinon, légalement, le transport adapté ne peut pas laisser Carmen là, sur le perron de la porte. Là. Mais je peux changer la destination du transport, mais pas à dernière minute. Puis c'est comprenable.
Mm-hmm.
Hein? Vous savez, tu ne peux pas arriver à une demi-heure avant l'arrivée du transport puis de lui demander, de dire, ben là, viens donc m'amener à l'hôtel de ville, là, parce que là, j'ai une urgence. Ça, c'est plus difficile, mais ça, c'est pas la faute du transport. La réorganisation, quand même, du transport adapté de dernière minute, ça serait très pénible pour eux, là. Puis je les comprends, là. Mais je suis en mode organisationnel tout le temps, là. C'est notre réalité. Hein?
Durant la journée, Carmen, elle fréquente un centre de jour ou ce qu'on appelle un plateau de travail?
Oui, Carmen fréquente un plateau de travail au Cégep Marie-Victorin du lundi au jeudi de 9h à 14h30 puis le vendredi de 9h à midi. Elle adore aller au plateau au Cégep Marie-Victorin et c'est pour ça qu'elle a à prendre le transport adapté. Il est certain que quand j'ai allé à la ville de Montréal le matin pour 9h, bien, j'ai un conjoint, William. C'est William qui reste ici. Donc, on est très accommodants l'un pour l'autre.
Une équipe.
Et oui, oui, on forme vraiment une bonne équipe, là. Et il reste ici quand j'ai allé à la ville de Montréal et ainsi de suite, là. On planifie vraiment... Vous savez, quand je vous dis là, qu'on est en mode organisationnel tout le temps, là, c'est 24-7. Carmen, là, on l'a 24-7, 365 jours par année.
Et j'imagine qu'au printemps dernier, le plateau de travail, ça a dû fermer?
Oui, effectivement. Le plateau de travail a fermé pendant toute la période de la pandémie, là. La semaine dernière, l'intervenante du milieu nous a contactés nous disant qu'elle devrait recommencer ce matin, mais on n'a pas eu de nouvelles. Donc, on présume que ça va être un petit peu plus tard. Peut-être le fait que le code orange est arrivé, ça retarde les choses, mais elle a hâte là, de retourner au travail.
Et j'imagine que vous, ça va vous simplifier un petit peu la vie aussi?
Non.
Non, ça ne change pas? Non, pas nécessairement.
Pas nécessairement, puisque depuis la pandémie, on est quand même en télétravail.
Ah, d'accord. Donc,
pour moi, j'avais pas de transport adapté. Notre horaire était plus facile étant donné que Carmen était ici avec moi. Et quand j'avais... vous savez, chez nous, à Saint-Léonard, on est quatre élus. On est quatre élus. Et je suis la seule dans 50 ans. Donc... toutes les autres élus avaient plus de 70 ans. Donc, eux étaient confinés. Donc, moi, j'étais la seule qui pouvait sortir sur le terrain. Et j'emmenais Carmen avec moi. Elle portait le masque, elle portait des gants, elle se désinfectait les mains. Elle aimait ça, là. Ça lui montrait mon travail en même temps, là.
C'est quoi l'aide gouvernementale pour une famille qui s'occupe comme ça d'un proche aidant qui a une condition chronique?
La première chose, c'est que là, j'ai la possibilité que Carmen puisse aller au plateau.
Oui.
On a le transport adapté. Je reçois une déduction fiscale pour aidant naturel autour à peu près de 600 $. Et de la part du CIUS, je reçois, ça s'appelle le soutien à la famille, qui est 1900 $ par année. Ce 1900 $-là, c'est pour payer les frais de gardiennage.
Oui.
Ça inclut le répit et les activités de loisirs. Mais par l'organisme de regroupement de parents de personnes ayant une déficience intellectuelle, là, l'organisme, eux, offre un service d'accompagnement à des activités de loisirs le samedi de 8h à 16h. Donc, ils font des activités, Carmen y va. Et le coût, c'est 160 par session, puis il y a 3 sessions par année. Donc, vous voyez que le 1900 $ là, avec mon gardiennage, puis les petites activités que Carmen fait, bien, il est vite passé, là, c'est pas suffisant, là.
Et est-ce que je me trompe si on dirait que lorsqu'on parle au gouvernement d'avoir davantage d'aide, la solution qui est souvent proposée, c'est l'institution?
Oui. Pourquoi? Parce que je vais un petit peu aller... ils sont prêts à payer des ressources intermédiaires,
ouais.
Mais pas familiales. Puis, écoutez, à cette question-là, là, j'ai pas toutes les réponses.
Non, bien
mais
sûr.
C'est très hypothétique, là, ce que je vais vous dire, de ce que j'ai vécu depuis 16 ans. Là. Je crois qu'on veut pas augmenter le nombre de familles recevant des services de soutien à domicile. Vous savez, le travail là, réalisé par les proches aidants là, est malheureusement invisible dans la société. Et une des raisons, là, je pense, qui explique cette réalité, c'est qu'une très petite partie des personnes qui jouent ce rôle ne se reconnaissent pas comme proches aidants. Cela fait en sorte que les personnes proches aidantes demandent très peu de soutien. Et le budget là, accordé aux familles, c'est toujours le même. Regardez, ça fait quoi, 16 ans, là? Au début, je pouvais peut-être avoir 3006, 3007. Et là, je suis rendue à 1900 parce que la part... On partage le montant à plusieurs familles et on va entrer toute catégorie d'aidants naturels ou de diagnostic dans le même bassin avec le même montant d'argent. Donc, ça en fait de moins en moins pour les familles et c'est très sectoriel.
Maintenant, je me demandais, même si, bon, c'est pas au niveau municipal qu'on peut régler ces choses-là, mais est-ce que il reste que c'est une situation qui vous influence comme politicienne dans vos valeurs?
Énormément. Vous savez, mon engagement, là, comme proche aidante, là, c'est volontaire. C'est un choix libre, c'est un choix éclairé là, de ma part puis de mon conjoint. Mon empathie, ma responsabilisation, ma générosité. Je sais ce que ça veut dire, vivre avec un enfant, un adulte, avec des besoins particuliers. Mon respect pour ceux qui vivent avec une différence qui est similaire à la nôtre. On n'a pas tous les mêmes besoins. Il y en a qui ont des besoins physiques en accessibilité universelle. Bien, je suis là pour les écouter. À Saint-Léonard, je suis porteur de deux dossiers. L'accessibilité universelle et MADA, Montréal Ami des aînés.
Oui.
On a un Saint-Léonard Ami des aînés aussi. Et je tiens beaucoup à ces dossiers-là. Et avec l'accessibilité universelle, sachez qu'au Parc Ferland, on a un aire de jeu qui est adapté pour les enfants qui ont des besoins particuliers.
Alors, j'imagine que c'est peut-être quelque chose qui fera qu'on aura l'occasion de vous reparler pour en savoir peut-être plus sur les services qui existent à Saint-Léonard pour les personnes en situation de handicap, pour l'accessibilité universelle. Mais en attendant, oui. Mme Tremblay, je vous remercie d'avoir partagé ça avec vous, votre vie quotidienne avec Carmen, entre autres pour ce que vous disiez, pour le fait que peut-être que des personnes se reconnaissent comme proche aidant, oui, et aller chercher toutes les ressources et l'aide à laquelle ils ont droit.
Alors, vous savez, à titre d'élu, là, des familles de Saint-Léonard viennent me voir qui se retrouvent avec un enfant avec des besoins particuliers ou un adulte. Et savez-vous, on a tous la même peur. La peur qu'il nous arrive quelque chose un jour.
Oui, hein?
Si un jour, là, il m'arrive un accident, c'est Carmen qui aura plus de ressources. Ma vie, là, est basée à planifier un monde à Carmen pour qu'elle soit jamais dans la misère. Et ça, là, les parents d'enfants ou d'adultes de famille de Saint-Léonard viennent me le partager au quotidien. Et savez-vous, souvent je dis au gouvernement et je le demande, ça serait important d'avoir un bassin pour développer puis d'harmoniser l'accessibilité à des services de répit de qualité et adapté à des situations de l'aidé et de l'aidant qu'on ne voit pas souvent, OK? Puis d'avoir des délais raisonnables pour les services. Vous savez, j'ai demandé un ordinateur avec un pictogramme à Carmen il y a 14 ans. Je ne l'ai toujours pas.
Encore?
14 ans, pouvez-vous? Et les familles qui viennent me voir vivent ça. Donc souvent, là, si on était capable de développer et de proposer des systèmes de repérage de familles pour qu'on puisse s'entraider, je comprends le gouvernement, il me dit tout le temps, c'est des données confidentielles, mais sur le volontariat des familles, si on pouvait avoir un développement là ou un système de repérage de familles et on pourrait s'entraider l'un l'autre, ça pourrait être aussi merveilleux, là.
Madame Tremblay, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui, mais je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et on risque de se reparler pour parler des différents dossiers que vous menez.
Et je suis sur Facebook. S'il y a des familles qui veulent me contacter, vous êtes les bienvenus.
Merci beaucoup, Madame Tremblay.
Merci.
À bientôt. Un grand merci encore à Mme Liliane Tremblay, qui est élue et proche aidante. Juste une petite précision, c'est une entrevue que nous avions enregistrée la semaine dernière. Alors, quand on parle de zone orange, parce que là, ça se peut qu'on soit proche du rouge. On va l'apprendre probablement au cours de la journée. C'était juste pour vous situer. C'est pas parce que Mme Tremblay n'était pas bien informée. Alors, je voulais quand même que ce soit clair. Parlant de pandémie, ça affecte beaucoup les différentes levées de fonds et le financement des organismes à but non lucratif. Et justement, l'Étoile de Pachot, un organisme très important pour soutenir les parents d'enfants lourdement handicapés dans la région de Montréal, lance une nouvelle campagne virtuelle pour amasser des fonds parce qu'ils ont dû annuler beaucoup d'activités de financement. Alors, pour cette campagne durera 4 semaines. À chaque lundi, ils vont présenter sur leurs médias sociaux le portrait d'une famille qu'ils ont soutenue avant, pendant et la pandémie. Alors, je vous invite à aller visiter leurs médias sociaux, la page Facebook de l'Étoile de Pachot, vous abonner à leur infolettre. Ils veulent pouvoir continuer à offrir un soutien. Depuis, ils ont un objectif de 10 000 $ et ils font vraiment une activité essentielle auprès des parents, ne serait-ce que pour les orienter vers les meilleures ressources. Alors, c'est très important en ces temps de pandémie. Du côté de l'Ontario, il y a une loi sur l'accessibilité des personnes handicapées qui exige que les sites web des entreprises canadiennes, alors pas seulement ontariennes, mais canadiennes, soient accessibles prochainement, d'ici 2021. Alors, le décompte est commencé pour les compagnies canadiennes qui veulent continuer à faire affaire en Ontario, parce que si votre site n'est pas accessible, il se retrouvera dans l'illégalité. Une autre bonne raison de rendre nos sites accessibles à tous. Alors, c'était Christiane Campagné à l'animation d'Accélibre cette semaine, à la recherche aussi. Je remercie Jean-Sébastien Laliberté pour tout ce qui est technique et son et pour le support moral. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler à nouveau de toutes sortes de sujets qui concernent l'inclusion sociale de tous et particulièrement des personnes en situation de handicap.